Hasta mañana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Nous sommes dimanche 13 février 2022. Merci d'être avec nous sur la radio Inzamba à Gatekakawe. C'est l'heure de la rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Dans cette édition, nous revenons sur les informations qui ont marqué cette semaine, en l'occurrence ce qui a été dit sous la levée des sanctions de l'Union européenne sur le Burundi, sur le dernier sommet de l'Union africaine et sur l'exécution des militaires burundais ayant refusé d'aller combattre en RDC. À la présentation, vous serez avec Joséphine Johnson-Mondeman.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Bienvenue encore une fois dans cette édition. La nouvelle est tombée ce mardi dans un communiqué du Conseil de l'Union européenne. Il a été décidé d'abroger la décision qu'il avait prise en 2016 par laquelle il imposait la suspension de l'aide financière directe au gouvernement burundais. L'abrogation de la décision permettra donc à l'Union européenne de reprendre ce type de coopération avec le Burundi. Le ministre burundais de la coopération a exprimé la satisfaction du gouvernement burundais. On fait le point avec Georges Nimenya.
Le communiqué du Conseil de l'Union européenne est précisé que la décision de lever des restrictions prises ce mardi et l'aboutissement du processus politique pacifique entamé lors des élections de mai 2020 au Burundi qui a apporté une lueur d'espoir à la population du Burundi selon le communiqué. L'Union européenne indique avoir pris acte des progrès accomplis par le gouvernement burundais ainsi que son engagement pour améliorer le domaine des droits de l'homme, la bonne gouvernance et l'état de droit. Selon toujours son communiqué, un grand nombre de réfugiés sont retournés volontairement au Burundi et la coopération avec la communauté internationale et pays voisins a été relancée. La réaction du gouvernement burundais n'a pas tardé. Le ministre de la Coopération, Albert Shingiro, indique que c'est un début d'une relance économique.
C'est une excellente décision pour les Burundais parce que maintenant, les investisseurs étrangers qui voudront bien investir au Burundi pourraient venir sans obstacle politique, sécuritaire, etc. Les périodes de tension politique, diplomatique sont maintenant derrière nous. Nous allons maintenant nous atteler à ce qu'on appelle la diplomatie économique qui va nous permettre de décoller économiquement et d'améliorer le bien-être de nos populations.
Il faut rappeler que la situation s'était dégradée avec la décision de l'ancien président Pierre Nkurunziza de se reconduire au troisième mandat en violation de la Constitution et de l'accord d'Arusha. Le nouveau président Evariste Ndayishimiye a joui de la confiance de l'Union européenne, bien que certaines sources au sein de la société civile évoquent un même mode opératoire entre les deux chefs d'État en matière de respect des droits de l'homme et le retour d'un État de droit.
Les habitants de la ville de Bujumbura ont participé hier matin à la marche manifestation pour saluer la décision de l'Union européenne levant les sanctions économiques prises contre le Burundi en 2016. Lors de ces manifestations, il a été dit que la communauté internationale a compris que ces décisions ont été prises injustement envers le peuple burundais. La levée des sanctions que l'Union européenne avait prises contre le Burundi en 2016 n'est pas fondée sur des faits d'amélioration de la situation des droits de l'homme. Certains gestes d'espoir avaient été posés en 2020 et 2021, entre autres la libération des défenseurs des droits humains, mais cela ne suffisait pas pour lever ces sanctions. C'est ce qu'a dit Karine Tertsakian, chercheur au sein de l'initiative des droits humains au Burundi, dans une interview qu'il a accordée à la télévision Renaissance au lendemain de l'annonce de la levée de ces sanctions. Écoutez.
Cette décision de l'Union européenne semble déconnectée de la réalité au Burundi et pourrait donner l'impression que l'Union européenne est prête à fermer les yeux sur les graves violations des droits humains qui continuent aujourd'hui. Rappelons qu'en 2016, l'Union européenne avait suspendu l'aide directe au gouvernement burundais à cause des violations très graves des droits humains à cette époque. Et elle avait formulé une série d'engagements très clairs qui étaient attendus du gouvernement burundais avant de pouvoir lever ces restrictions. Mais le gouvernement burundais n'a pas réalisé la plupart de ses engagements et la plupart des préoccupations de l'Union européenne restent très pertinentes aujourd'hui. Même si, globalement, le niveau de violence aujourd'hui a diminué par rapport à 2016, plusieurs des mêmes tendances persistent encore aujourd'hui, notamment la répression politique et les sévères restrictions à la liberté d'expression. Il y a eu en 2020 et 2021 certains gestes positifs, par exemple la libération de deux défenseurs des droits humains, mais entre-temps, un autre ancien défenseur des droits humains, l'avocat maître Tony Germain-Kina, a été arrêté, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement et toujours en train de purger sa peine. Nous avons documenté également de nombreux cas de torture par le Service national de renseignement, par exemple tout au long de 2021, ainsi que des cas de disparition forcée, notamment de membres de l'opposition. Donc, même s'il y a eu des progrès, c'est clair que ces progrès sont très limités et qu'on ne peut pas encore parler d'amélioration durable. Alors, le président Evariste Ndayishimiye continue de faire beaucoup de promesses, beaucoup de bonnes déclaration en faveur des droits humains, en faveur de la justice, mais l'Union européenne devrait baser ses décisions sur des faits concrets, bien documentés, et non sur de simples souhaits ou des promesses.
Pourquoi faut-il se faire vacciner ? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Ainsi de ce journal des journaux, le Burundi est pris comme un pays modèle dans la stabilité et la démocratie en Afrique. Tel est le message du président de la République au retour ce lundi du 35e sommet des chefs de l'État de l'Union africaine. Le message d'Evariste Ndayishimiye n'a pas en tout cas convaincu le Forum pour le renforcement de la société civile FORSC. Son délégué général indique que plus de 300 000 réfugiés burundais sont toujours en exil dans les pays voisins. Pour Vital Nshimirimana, le Burundi est loin d'être un modèle. On fait le point avec Diane Nkurunziza.
C'est à son arrivée à l'aéroport Melchior Ndadaye que le président de la République exprime sa satisfaction sur le bilan de ce sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Pour Evariste Ndayishimiye, le Burundi est considéré comme un pays modèle.
En ce qui concerne la paix, je ne manquerai pas de dire qu'ils ont été satisfaits de l'étape déjà franchie au Burundi si le retour de la paix et la consolidation de la démocratie. Et de l'autre part, c'est aussi une satisfaction sur les messages qu'on nous a donnés qui affirmaient que le Burundi est considéré comme un pays modèle.
Le Burundi, bien apprécié dans la stabilité, la paix et la démocratie, cela étonne une partie de la société civile burundaise. Vital Nshimirimana, délégué général du FORSC, le Forum pour le renforcement de la société civile, indique que le gouvernement du Burundi est plutôt connu dans ses actes de violation grave des droits humains.
Et le Burundi est apprécié par d'autres nations africaines, ceci est faux, et en ce sens que il y a plusieurs éléments qui indiquent que le Burundi n'est ni stable ni respectueux des droits de l'homme. Il y a des crimes contre l'humanité qui continuent à se commettre, et ce malgré l'installation d'un nouveau gouvernement, d'un nouveau président de la République. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié de Burundais qui avaient fui depuis 2015 qui restent en exil. Si la situation s'était améliorée, il y aurait un flux massif de retour au Burundi, ce qui est contraire aujourd'hui.
Ce 35e sommet des chefs d'État de l'Union africaine a vu la participation pour la première fois du président Evariste Ndayishimiye. Son prédécesseur, feu Pierre Nkurunziza, avait passé 5 ans de son troisième mandat au pouvoir depuis 2015, sans aucune intention de s'asseoir avec ses homologues chefs d'État africains.
Merci Diane Nkurunziza. Les propos du président Evariste Ndayishimiye à son retour du sommet de l'Union africaine sont surprenants et mensongers. Constat des Burundais qui se sont exprimés au micro de la rédaction Inzamba. Comment peut-il parler de stabilité dans un pays miné par plusieurs maux comme la corruption, l'insécurité et la pauvreté, s'interrogent ces Burundais qui font remarquer qu'il suffit de se rendre sur le terrain pour voir la réalité. Écoutez leur point de vue.
Il possède des richesses énormes. Alors, la population au pied est dans la misère, donc nous sommes dans le chaos. Et puis, monte des facteurs qui sont en série. Alors, que les salaires nous montent par les salaires des fonctionnaires. Donc, il a profité le manque de droit d'expression parce que les barons se trouvent dans une bouteille. Donc, ils ne s'expriment pas. Donc, ce que je peux dire, c'est que le président de la République manque ce qu'on appelle l'empathie. Il n'entend pas les traits de tous ses dirigeants.
C'est mensonger. On ne peut pas prendre le Burundi comme un modèle, alors que c'est un pays où il y a beaucoup de corruption, un pays qui est très très inférieur à d'autres pays de l'Est africain, le pays où il y a la hausse des prix incompréhensible, le pays où il y a le chômage très élevé, il n'y a pas de liberté de presse, il y a des tueries et ainsi de suite. Il est difficile que le Burundi soit pris comme un modèle presque dans tous les domaines. On peut dire au contraire qu'il est pris à modèle dans des actes qui ne sont pas beaux.
Pour ce mensonge, parce que les Burundis vivent dans des situations très misères. Pas de liberté d'expression, les prix montent à un taux très élevé. Pas de liberté, vraiment c'est déplorable. Nous invitons ces pays à ce qu'ils puissent venir sur terre et même voir la situation dont les Burundis vivent.
Et puis la semaine dernière, une vingtaine de militaires burundais ont été tués par ses frères d'armes sous l'ordre du lieutenant-colonel Ildefonso Baranyikwa, chef du bataillon de la police militaire, en collaboration avec le colonel Jekonias Nihorimbere de la 110e brigade. Ces militaires ont été tués pour avoir refusé de franchir les frontières pour aller combattre en province de Kivu de la RDC. Valérie Moucho nous en dit plus.
Les informations que nous détenons auprès de nos sources au sein de l'armée révèlent que ces militaires qui ont été tués provenaient de la 3e et de la 4e division militaire. Après le briefing de mission adressé aux troupes par le colonel Jekonias Nihorimbere, le commandant de la 110e brigade, concernant leur trajet et leur destination au Congo, certains militaires ont refusé d'exécuter cette mission. Ils ont demandé plutôt avoir l'autorisation officielle de dépassement des frontières, ainsi qu'un ordre de mission clair et conforme au règlement militaire. Ces soldats étaient estimés à 30 personnes, soit l'équivalent d'un peloton. Les mêmes sources font savoir qu'ils ont été sommés d'attendre à la frontière avec le Congo, ceux qui viendront leur expliquer l'objectif de cette mission. Des militaires du bataillon de police militaire ont été ensuite envoyés sur place. Selon toujours nos informations, ils ont alors exécuté sur place les 30 frères d'armes sur ordre des renseignements militaires. Ces événements se sont déroulés le jeudi 3 février.
Alias Gisisire a été ordonné avec sa section d'aller en mission au Congo jeudi de la semaine passée. Mais ce dernier a refusé, arguant qu'il ne peut pas dépasser la frontière sans autorisation préalable. On lui a dit d'attendre. Il a été exécuté avec ses militaires. Nous avons peur nous aussi face à cette situation.
Parmi ces militaires tués, deux noms sont déjà connus par la rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe. Il s'agit de l'adjudant-chef Nishimana, surnommé Gisisire, qui provenait de la 4e division militaire au sud du pays. Les mêmes sources font savoir qu'il était au commandement adjoint du peloton exécuté. L'adjudant-chef Nishimana est natif de la commune Gisozi, dans la province de Mwaro, au centre du pays. Le second étant le caporal-chef Eric Nduwimana, surnommé Mugomozi, du 111e bataillon camp Gatumba. Il devait faire office d'éclaireur, issu de la 3e division militaire, selon toujours nos sources. Eric Nduwimana est natif de la province Ngozi. Les mêmes sources font savoir en outre que parmi les militaires tués figurent un officier, 5 sous-officiers et une dizaine d'hommes de troupes. Les corps de ces militaires ont été jetés dans la rivière Rusizi. Les corps déjà repêchés ont été présentés comme ceux de militaires victimes de noyade. Excepté le caporal-chef Eric Nduwimana qui a été enterré ce mardi, les familles des autres militaires ne sont même pas au courant du sort des leurs. Cet incident s'ajoute à l'inquiétude des familles des militaires qui sont au Congo depuis plus d'un mois, alors que l'armée burundaise nie sa présence sur le sol congolais, et cela à travers le communiqué diffusé par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Alain Trubert Mutabazi. À la rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, nous avons tenté de joindre par téléphone le colonel Jekonias Nihorimbere, le commandant de la 110e brigade, le lieutenant-colonel Ildefonso Baranyikwa, commandant du bataillon de police militaire, ainsi que le colonel Floribert Biyereke, les porte-parole de l'armée burundaise, pour qu'ils puissent éclairer l'opinion sur ces révélations, mais sans succès.
Vous saurez que les identités des trois de ces militaires ont été connues. La dernière en date est celle du caporal, la chef Jean Dodieu Sintingayo, qui a été dévoilée par ses frères d'armes. Un de ceux-là, qui a requis l'anonymat, qui déplore ce qui s'est passé, a demandé que des enquêtes minutieuses soient diligentées pour traduire en justice les coupables et les commanditaires de ces actes. Voilà, madame, messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Merci pour votre fidélité à la radio Inzamba Gatekakawe. Au revoir et à la prochaine.
Give in Zamba.
Zambira Samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.